Internet transforme notre rapport à la citoyenneté. Internet modifie le sens de l'information. Internet révolutionne les mentalités. Internet bouleverse les lois du marché. Internet serait le nouvel Eldorado de la vente entre particuliers. Internet, eh bien mes deux invités aujourd'hui n'ont que ce mot-là à la bouche. À les écouter, le net n'a pas son pareil dans l'histoire du monde et depuis son apparition, il y a une douzaine d'années environ, plus rien ne sera jamais pareil. C'est une sorte de macro-révolution, un changement d'échelle technologique aussi, mais médiatique encore, politique, culturelle, économique et peut-être même aussi juridique. Alors pour tous ceux qui, comme moi, ont du mal parfois à se mettre un peu à la page, discours croisé ce matin de deux spécialistes de la chose avec un grand C. À mes côtés, d'abord, il y a Benoît Tabaka. Vous êtes juriste et spécialiste en e-commerce et vous êtes aussi membre fondateur du Forum des droits sur Internet. Alors je crois, si je ne me trompe, hein, vous détenez à vous tout seul deux blogs, deux des 7 millions de blogs existants en France. Alors les blogs, juste pour préciser, c'est ces mini-sites qui permettent de mettre en ligne son journal personnel. Le premier blog que vous avez, c'est sur l'examen du commerce électronique. Et le deuxième blog, c'est un blog gourmand où l'on trouve entre autres la recette des poupiottes de veau et de la tranche de morteau au bleu de Gex, comme celle de l'acra de courge en fin de saison. C'est ça ?
Tout à fait.
Quel rapport avec le e-commerce ?
Bah le rapport, c'est tout simplement mes deux passions, c'est-à-dire que j'ai une vraie passion pour les aspects nouvelles technologies et en particulier le commerce électronique, on va beaucoup en parler ce matin. Et c'est vrai que la deuxième passion, c'est tout ce qui est un peu la gourmandise, la bonne chère et finalement les bons petits plats que j'essaie de faire partager à tous les internautes.
Bon, alors je disais, en France, il y a 7 millions de blogs, c'est le premier pays européen en la matière, deuxième après au niveau mondial après les États-Unis. Comment est-ce qu'on peut expliquer, d'après vous, cet engouement, surtout je crois chez les moins de 25 ans ?
Mais en fait, c'est devenu sans doute l'un des nouveau support de communication, hein. C'est-à-dire qu'on connaissait classiquement beaucoup le SMS, maintenant on est passé au blog, c'est-à-dire que les jeunes notamment n'hésitent plus à alimenter leur blog directement depuis quasiment les salles de cours par téléphone mobile, puisque c'est dorénavant possible, et c'est vraiment un nouveau mode d'expression qui a été en plus facilité par le principe même du blog, qui est un outil qui permet de mettre très facilement en ligne des contenus sans avoir aucune connaissance technique. Il faut juste avoir un PC, un accès à Internet, et on peut faire son blog très facilement.
C'est déjà pas mal, il faut déjà avoir ça. Hein.
Il faut déjà avoir ça, mais bon, on a quand même quasiment plus de 60% de population qui a ça en France.
Alors, en direct avec nous, mais de Bayonne, il y a aussi le chercheur, le grand chercheur Joël de René, qu'on aurait presque envie de ne plus présenter, tellement son livre La révolte du prolétariat fait jurisprudence en la matière. Joël, vous nous entendez ?
Oui, bien sûr.
On nous entend même très très bien. Et c'est une première en France, je voulais en parler, Joël de René, avant de commencer le débat. Votre livre est désormais disponible gratuitement sur Internet et il est même téléchargeable. Alors avant de commencer cette discussion, j'aimerais qu'on écoute un extrait de votre livre.
Introduction. Les citoyens du monde sont en train d'inventer une nouvelle démocratie. Non pas une démocratie caractérisée par le vote à distance via Internet, mais une vraie démocratie de la communication. Cette nouvelle démocratie, qui s'appuie sur les médias des masses, émerge spontanément, dynamisée par les dernières technologies de l'information et de la communication auxquelles sont associés de nouveaux modèles économiques. Ni les médias traditionnels, ni les hommes politiques n'en comprennent véritablement les enjeux. Les médias des masses, seuls véritables médias démocratiques, vont radicalement modifier la relation entre le politique et le citoyen et, par voie de conséquence, avoir des impacts considérables dans les champs culturels, social et politique.
Joël, où est-ce que vous avez trouvé cette voie ?
Alors, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que c'était une vraie première dans l'édition, puisque avant que le livre ne sorte, on avait déjà créé un blog, ce qui permettait aux journalistes de comprendre ce que je voulais dire dans ce livre. Et puis maintenant, mon éditeur a accepté non seulement que le livre soit, comme vous l'avez dit, totalement en ligne sur le site pronétariat.com, mais surtout, j'ai été pêché en Suède, croyez-moi, c'est vrai, une voie robotique. Le livre est entièrement lu par cette voie qui est assez agréable, qui n'est pas une voix humaine, mais c'est pas très gênant dans la mesure où ça nous a pas coûté grand chose, parce que si vous faites lire un livre par un acteur professionnel, comme le font d'ailleurs maintenant pas mal d'éditeurs étrangers et français, ça coûte quand même assez cher. Donc voilà, c'est la voix du livre, vous pouvez la mettre sur votre disque dur, avec iTunes, et l'écouter sur votre iPod ou tout autre baladeur.
Pourquoi en Suède on trouve pas ça en France ?
Mais je sais pas, on a cherché partout dans le monde entier, et on a trouvé un synthétiseur de voix absolument remarquable dans beaucoup de langues, en espagnol, en allemand, en italien. Et on l'a pris pour AgoraVox, le journal que j'ai lancé depuis un an, qui a maintenant 550 000 lecteurs par mois, distincts, un succès absolument incroyable. On s'est dit pourquoi est-ce que les articles ne seraient pas également lus par une voix quand les gens font quelque chose d'autre pendant qu'ils veulent connaître les nouvelles. Et puis on a trouvé cette voie et on s'est dit pourquoi pas l'adapter au livre maintenant qu'il est en ligne et vous venez d'entendre.
Si on peut maintenant télécharger ce livre ou l'écouter, comment vous allez gagner des sous, vous, dessus?
Mais maintenant, le livre est sorti au mois de février et il a pas mal marché en librairie. Il a fait une quinzaine de milliers d'exemplaires. Et ce qui se produit, c'est que maintenant qu'il est en ligne gratuitement, on en discute, la preuve, on en parle. Les libraires le remettent devant et il se revend en librairie encore mieux qu'avant. Parce que finalement, les gens n'aiment pas tellement lire sur les écrans. Ils préfèrent annoter dans un bouquin avec un crayon, des papiers. Et puis voilà, donc ça redonne une nouvelle vie au livre et finalement, c'est complémentaire. Le mettre en ligne gratuitement, paradoxalement, ça fait vendre. En librairie.
Mais parce que j'ai pas vu de pub s'afficher.
Non, mais il n'y a pas de pub.
Il n'y a pas de pub.
C'est pas la peine, non, pas du tout. Je voudrais que, pour moi, c'est plus important que le livre soit à la disposition du plus grand nombre, qu'on puisse en discuter, que les gens puissent l'aimer, le détester, faire des commentaires, qu'il soit simplement accessible au prix auquel il est vendu dans les librairies.
Alors, Joël Derenet, je voulais savoir, est-ce qu'Internet, pour vous, c'est vraiment maintenant un terrain infini d'expérimentation?
Si vous voulez, c'est pas mon terrain, parce que moi, je viens plutôt du monde de la biologie. Vous savez, j'ai dirigé pendant 10 ans les recherches appliquées de l'Institut Pasteur, je suis à la Cité des Sciences, je m'occupe beaucoup de communication, d'éducation. L'Internet, j'ai eu la chance formidable au MIT comme chercheur et enseignant de voir ses débuts en 1974. Vous vous rendez compte, ça remontait à la première liaison entre le MIT et l'Angleterre. Donc j'ai vu naître en quelque sorte, je l'ai en partie amené en France. J'étais un des tout premiers à en faire la promotion. Et donc je vis dedans comme, écoutez, je vais employer un mot un peu de prof, mais dans un écosystème. Notre écosystème, vous savez ce que c'est, hein, c'est fait des animaux, des végétaux, des grands cycles de la nature. Eh bien, on vit dans un écosystème informationnel, qui est maintenant cet incroyable Internet par lequel passe non seulement le texte, mais aussi le téléphone, la voix sur IP, la télévision, et beaucoup de choses. Donc je ne dis pas que c'est la panacée, la réponse à tout. Bien entendu, je ne suis pas de ceux qui croient que la technologie à elle seule change la société. Je pense que c'est la réappropriation sociétale de certaines technologies en fonction de besoins, de contraintes, de fantasmes, de désirs, qui changent notre société, ce qui est en train de se produire avec cet incroyable écosystème informationnel, ce milieu dans lequel nous baignons, qui est devenu Internet.
Alors Benoît Tabaka, pour vous aussi, hein, c'est un peu la folie des grandeurs côté Internet. On sait qu'Internet aujourd'hui, c'est le plus grand magasin du monde. Tout s'achète et tout se vend, c'est ça?
Quasiment. Effectivement, vous pouvez quasiment tout trouver sur Internet, pas forcément accessible aux internautes français, par exemple des chars d'assaut ou des porte-avions Clémenceau. On a même eu porte-avions Clémenceau qui a été mis en vente sur Internet.
Ça se vend bien, ça?
Ça se vend difficilement. Le problème, c'est la livraison. La Poste a un peu du mal à le livrer. Non, c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, on a quand même plus de 26 millions de Français qui sont connectés à Internet, ce qui est quand même non négligeable. Hein. Ça fait quasiment un Français sur deux. Et c'est vrai que quand on passe côté commerce électronique, on est à 15 millions de cyberconsommateurs assez actif, et c'est une progression qui explose de mois en mois, qui fait que quand même la France est un des premiers pays en termes de commerce électronique. Avec
Disais 10 milliards d'euros comme chiffre d'affaires pour le e-commerce et plus de 10 000 sites marchands. Comment on explique le succès de la greffe du e-commerce? Enfin, comment vous l'expliquez?
En fait, ça peut s'expliquer par plusieurs intérêts. Bon, on a eu déjà le phénomène de la bulle économique, hein, cette fameuse bulle qui justement a incité beaucoup d'acteurs à venir sur Internet. On avait un petit peu le sentiment qu'on allait pouvoir gagner beaucoup d'argent avec quasiment rien. Donc on a eu déjà ce premier phénomène avec l'arrivée d'une première partie des acteurs. Ensuite, on a eu le deuxième aspect qui est la maturité du média. Aujourd'hui, l'Internet est quand même
vieux. La maturité du média.
Oui.
C'est-à-dire que ça marche mieux maintenant, quoi.
C'est pas ça, c'est que l'Internet, en fait, est âgé. Ça peut paraître bizarre. C'est vrai qu'en France, c'est à peu près 10 ans maintenant, l'Internet.
Donc il est entré dans les mœurs.
Et on est rentré dans les mœurs. Aujourd'hui, beaucoup de personnes l'utilisent, même sans s'en rendre compte. Et c'est vrai que beaucoup d'acteurs ont décidé de passer le cap à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on a vu une émergence maintenant depuis 2-3 ans de nouveaux acteurs marchands, de nouveaux cybermarchands.
Mais pratiquement, pardon, moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi des amateurs vont maintenant faire du business, du commerce sur Internet. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a une chute des prix, donc pourquoi on achète, pourquoi on vend? Il y a pour un amateur la possibilité d'avoir moins de stock. c'est quoi les facilités d'Internet pour faire ce commerce quand on n'est pas un professionnel?
Alors aujourd'hui, effectivement, on a à peu près 7 millions de Français qui en amateur vendent sur Internet. Ce sont des, eux-mêmes cybermarchands, ce qui peut paraître assez extraordinaire. Bon, on connaît tout ça, ce qu'on appelle les brocantes. On avait ça dans la vie réelle, disons, de tous les jours. Aujourd'hui, l'Internet permet de développer ce phénomène-là. Pourquoi? Parce que, un, déjà, vous avez les plateformes, vous avez des sites qui sont dédiés à ça. Vous avez aujourd'hui en France à peu près 3-4 sites qui permettent à un consommateur de mettre en vente ses objets, mais surtout qui lui fournissent en quelque sorte sa cyberboutique tout en un. Il a juste qu'à donner quelquefois le code barre de son produit et automatiquement l'annonce est en ligne. Le site lui propose un outil de paiement en ligne, lui propose un outil de publicité, mais surtout ce qui est assez phénoménal, c'est que quand vous prenez des plateformes type eBay, qui est le premier, la première plateforme mondiale avec plus de 160 millions d'utilisateurs, ce qui est énorme, quand vous prenez le site français qui est le petit concurrent d'eBay, mais qui est très actif, et peut-être le seul actif en Europe, qui est PriceMinister, qui a à peu près 6 millions d'utilisateurs, ben grosso modo, vous êtes vendeur, vous êtes un simple vendeur particulier, vous arrivez sur ce site, et vous avez déjà 6 millions potentiellement d'acheteurs.
C'est énorme. C'est aussi l'avantage d'Internet, c'est que maintenant, le commerce n'est plus la chasse gardée des professionnels. On sait ce que pèse, en gros, aujourd'hui, le commerce électronique amateur.
Ben, on estime, nous, à peu près à 7 millions de personnes. Au niveau du montant, c'est assez difficile à apprécier. Tout ce qu'on sait, c'est que à peu près le panier moyen, c'est-à-dire le montant de la transaction, est un petit peu plus faible parce qu'on est effectivement sur des produits d'occasion. Donc on est plus sur des montants moyens autour des 60-70 euros, alors qu'on est sur des montants de 100-120 euros en matière de commerce électronique traditionnel. Mais c'est vrai qu'on aura effectivement un peu tout sur ces plateformes-là, du timbre-poste à quelques centimes, à la voiture d'occasion à plusieurs milliers d'euros.
Ah. Vous, Joël Doronnet, vous parlez plus de consommateurs, mais d'utilisateurs. Sur quoi s'appuient ces nouveaux pouvoirs des internautes?
D'abord, je voudrais juste ajouter à ce que vient de dire très justement Benoît Tabaka que le succès aussi de cette e-commerce à la française est dû au Minitel, paradoxalement.
C'est qu'on
a été les tout premiers à s'entraîner à avoir un terminal chez soi qui communiquait par le téléphone avec un ordinateur et qui permettait de faire des tas de choses. Et d'ailleurs, Vinton Cerf, qui est un des grands fondateurs de l'Internet, dit, vous, les Français, vous avez su, avant tout le monde, même avant Internet, inventer les services qui aujourd'hui sont les principaux services d'Internet, à savoir le chat, évidemment. Évidemment, la messagerie électronique, la banque, le e-commerce. Donc, il y a eu ça.
Tout ça, ça n'a pas été inventé à la Silicon Valley?
Le Minitel a inventé les services interactifs. Ouais. Et les Français qui, au début, sont un peu bloqués avec le Minitel et empêché peut-être, de certaine manière, l'entrée de l'Internet, ont rattrapé le temps perdu parce qu'on a cette culture de l'interactivité avec une machine à distance. Et puis, il y a aussi quand même le fait qu'on a des catalogues interactifs, qu'on a beaucoup plus d'informations. Et puis, ce n'est pas trop difficile de créer une cyberboutique alors que d'avoir une devanture dans la rue, c'est plus compliqué.
Alors, ce que vous dites, c'est que cette révolution, elle s'appuie à la fois aussi sur des technologies avancées qui ont été créées et, comme vous venez de le dire, sur des pratiques qui ont été inventées par les utilisateurs eux-mêmes. C'est
exactement,
ça, le SMS,
c'est ça,
le chat,
qui viennent du bas vers le haut. Donc, c'est ce que la question que vous me posiez, c'est est-ce qu'on parle d'usager, d'utilisateur? Moi, j'ai employé ce terme de pronétaire. Pronétaire, dans mon livre, La révolte du pronétariat, c'est pronétaire, c'est des gens qui sont pour et sur le net et qui, surtout, voilà la différence, c'est qu'ils ont des outils professionnels de création de contenu numérique, de la musique, de la vidéo, du texte, des sites web, alors que les prolétaires n'avaient que leur force de travail. Prolos en grec, ça veut dire ligné. Et donc, ils n'avaient pas les outils de modification des conditions de leur travail, alors que les pronétaires entrent en rapport de force, je ne vais pas dire en conflit, mais en rapport de force avec les masses médias traditionnelles, les 5 grands masses médias, l'image avec la télé, le son avec la radio, le texte avec l'édition, les opérateurs de téléphone et la publicité massive, qui appartiennent à l'économie d'échelle traditionnelle, vous vous souvenez, c'est les moyens de production standards, des objets standards vendus en masse à une foule de consommateurs passifs, alors que maintenant, les médias des masses, dû justement au fait que ces pronétaires ont des outils professionnels, peuvent fabriquer des outils de bonne qualité, des produits de bonne qualité, et les échanger entre eux.
Ce qui implique là encore la création d'un univers parallèle à celui des entreprises classiques.
Complémentaire, en compétition.
On y revient dans quelques instants. De la radio qui n'en est pas vraiment, le podcast, c'est surtout une nouvelle manière de consommer du son, et c'est la carte postale virtuelle d'Emmanuel Gouache.
Il fut un temps où, pour communiquer, nous envoyions des signaux de fumée pour prévenir Aigle au regard perçant de l'arrivée imminente d'un troupeau de bisons dans la vallée sauvage de la soif. Et puis, nous envoyâmes des cavaliers fendant le vent pour porter des missives très très importantes. Puis fut la poste, le télégraphe et ses bip bip, le téléphone fixe, puis portable. Avec Internet, la société devint entièrement communication, télévision, radio, courriers électroniques, blogs et dernier phénomène en date, le podcasting de la radio qui n'en est pas vraiment une pratique, en tout cas qui révolutionne l'écoute radiophonique, une nouvelle façon de consommer la radio. Nous sommes le mercredi 28 juin de l'an 2006, Paris, capitale urbaine européenne, boulevard Sébastopol, le monde communique. Nous avons rendez-vous avec Sylvain, alias Monsieur Vertigo, adepte de la nouvelle religion podcast.
Sylvain ?
Oui.
Bonjour. T'écoutais de la radio là ou pas ?
Tu peux avoir un exemple là ? Je vais vous faire entendre.
Là, dans le métro, j'ai écouté mon petit magazine sur le cinéma, Cinépod. Donc l'actualité du jour, les sorties de films, etc. Et c'est un programme quotidien qui est d'ailleurs diffusé sur une radio locale dans l'est de la France, à Beach exactement, et qui est podcasté. Donc ça me permet de suivre l'actualité cinématographique quotidiennement avec mon iPod. J'écoute à la fois des programmes qui sont de Marseille, de Toulouse, de Belgique, de gens que j'aurais jamais écouté autrement que via le podcast.
Bon, alors c'est de la balade de diffusion cette histoire-là.
Ah, complètement, ouais.
Alors on va marcher un peu.
Allez, on y va.
On va par là.
C'est parti.
Il est 19h57 sur le boulevard Sébastopol à Paris. Nous partons dans les rues de la mégalopole, nous perdre, moi avec mon micro et notre auditeur de podcast, Monsieur Vertigo, une chaussette dans la main, à l'intérieur, un baladeur MP3.
Alors, quand on sort la chaussette, on fait menu. Et puis, alors il y a une rubrique podcast, hein, voilà, attends, hop, musique, podcast. Et donc là, on retrouve des choses. Alors, il y a Podcast, Arte Radio, Cinépod, Déclencheur, Duty Free. C'est un programme qui vient tout droit de San Francisco.
Coming to you from San Francisco Bay Area, this is Arno.
Donc voilà, c'est un peu la tendance, le pouls de ce qui se fait du côté de la côte ouest américaine.
Africa, Africa. This is Tiaba, the original social worker. Check it out.
20h04, Sylvain, alias Monsieur Vertigo, qui écoute des podcasts qui viennent de partout sur la planète, mais qui ne laisse pas tomber les programmes radio.
Là, ça a complètement changé ma vision des choses, c'est-à-dire de pouvoir écouter un programme qui passe à une heure définie dans la journée à une autre heure. Je prends un exemple tout bête. 2000 ans d'histoire de France Inter, qui est une émission extraordinaire, passe à 14h, entre 14h et 14h30. Malheureusement, c'est une heure où je reprends le travail. Donc souvent, ce que je faisais, c'est que je l'écoutais comme ça, de façon un peu volée, sur mes heures de travail. Maintenant, je la mets en podcast et je peux l'écouter soit le matin, soit le soir en prenant mon métro. Et pour moi, c'est un enrichissement culturel indéniable.
Bienvenue pour l'épisode 3 de Déclencheur, le podcast qui parle photo. Trois segments dans cet épisode, comme d'habitude.
Il y a un nouveau podcast, Déclencheur, qui est un podcast sur la photographie. Et d'ailleurs, ça m'a donné envie de m'acheter un réflexe numérique et de pouvoir faire de la photo. Alors, c'est vrai que, du coup, on peut se constituer sa petite bibliothèque, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le podcast, c'est un média qui se télécharge, donc qui est stocké sur ton ordinateur, et qui permet, par la suite, de pouvoir les écouter quand on veut, voire les réécouter. Donc, en fait, on peut se créer quasiment une bibliothèque d'émissions qu'on n'a peut-être pas l'occasion d'écouter dans l'année. Et puis, voilà, l'été, on embarque son iPod, on charge un maximum de programmes et on part avec.
20h48, nous nous sommes installés à la terrasse d'un café. La liste continue de défiler.
Ça, on l'a vu aussi. Ah oui, le Don Andrew Show est un podcast d'un couple américain qui racontent leur vie de quotidienne.
In the Earthlink Make Advertising Better Challenge.
Alors c'est sympa parce que ça permet de, encore une fois, de découvrir des univers que j'aurais jamais découvert ailleurs. Et ça me permet de voir ce qui se passe de ce côté-là, de l'Amérique profonde. Encore un thermomètre de la planète que j'ai planté quelque part au milieu des États-Unis.
Hello,
Au milieu des États-Unis d'Amérique, comme partout sur la planète, Monsieur Vertigo lance ses oreilles curieuses à l'assaut du monde. Il est 21h17 à Paris. Ici, comme partout dans notre village global, des femmes et des hommes communiquent, envoient leur message à l'humanité. Il y en a sûrement un qui vous est adressé. Il n'y a qu'à le trouver. Monsieur Vertigo vous attend, lui, sur lepoidauditeur.com. C'est pour entendre parler de podcast. Oui, c'est ça.
Voilà, vous pouvez réécouter ce reportage d'Emmanuel Gouache sur le site internet de Radio France. En revanche, il faudrait être un petit peu patient pour pouvoir podcaster l'émission. Il semble que nous ayons quelques soucis face à l'affluence des demandes de podcast et ça nécessite quelques ajustements. Voilà, Joël Deronet, peut-être une réaction à ce reportage. Est-ce que le podcast, pour vous aussi, a vraiment changé nos vies?
C'est pas vraiment changer les vies, mais c'est une façon complémentaire, comme il le dit très bien, de voir le monde. C'est une micro-radio prolétaire, faite par des gens pour des gens. Et ce qui est tout à fait intéressant, il explique très bien, c'est qu'on n'est plus soumis à une grille avec des rendez-vous synchrones pour écouter des émissions. Ce flux peut être capté et écouté quand on le veut, il le dit, dans le métro et ailleurs. Et nous, on a innové d'une manière assez incroyable en France, avec Carlo Revelli, quand on a créé agoravox.fr, ce journal en ligne multimédia, on a mis de la télé dedans, dans le journal, de la télévision, de la télé, on peut cliquer sur des écrans et voir des émissions de télé en flash faites par des prolétaires dans la rue avec leur camphone, et on a rajouté des podcasts.
Avec leur quoi, leur camphone?
Le camphone, c'est le téléphone caméra, vous savez.
D'accord.
La plupart des téléphones maintenant sont équipés d'une caméra qui permet de prendre des photos et de faire de la vidéo.
Ah, pas le mien, je vais m'y mettre.
Ah bon, peut-être. Et donc, des gens prennent dans la rue, je sais pas, les manifs du CPE ou bien la Gay Pride, et ils l'envoient à Agoravox, et nous, on a un système évidemment éditorial de filtrage pour préserver quand même la qualité de ce qui nous est envoyé. Et vous pouvez cliquer sur un petit écran de télé et voir la télé. Idem pour les podcasts. Il y a une petite radio qui apparaît sous la forme d'un iPod. Vous sélectionnez des émissions et vous avez des journaux radio faits par des amateurs. Vous avez des interviews de personnes politiques, hommes et femmes politiques dans la rue. Et donc voilà, c'est un journal multimédia qui a à la fois du texte, de la télé,
donc
de la radio.
Donc les possibilités sont énormes. Ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que par exemple tout ça, c'est la mort annoncée de la radio?
Pas du tout.
Pourquoi?
Justement, mais c'est très intéressant. Votre question est très bonne. C'est que quand on a sorti Agoravox, les grands journaux, je ne vais pas les citer, sont venus nous voir en nous disant « mais vous allez tuer les journalistes ». Maintenant, ils ont compris que ces journalistes amateurs ont sur le terrain des informations que parfois ils n'ont pas. Et donc, il y a une complémentarité entre le grand journal, la grande radio, la grande chaîne de télé qui a sa marque, sa compétence, son expérience, son histoire, son caractère, sa capacité de médiation, comme vous, hein, France Inter, et nous, les pronétaires, qui ont des informations originales, complémentaires des autres. Donc, ce n'est pas du tout la mort.
Mais moi, justement, ce qui me gêne, pardon, avec vos citoyens reporters, c'est quelque part, c'est quelle est la fiabilité de l'information qui est rapportée? Est-ce qu'on n'a pas des risques de désinformation?
Bien sûr qu'ils existent. Mais aussi, quelle est la fiabilité des informations rapportées par les grands médias traditionnels? On connaît quelques catastrophes incroyables de non-fiabilité de médias dominants. Donc, c'est pareil, il y a aussi des erreurs.
Il y a quand même un boulot au quotidien de vérification
bien
de
l'info, sûr,
en tout cas,
mais là
tentative,
aussi,
quand le temps est
je vais vous donner un exemple. Wikipédia, qui est la plus grande encyclopédie en ligne gratuite, en 37 langues différentes.
On dit beaucoup de bêtises, Wikipédia.
1 750 000 articles contre 750 000 articles dans Encyclopedia Britannica, qui est la référence des références. L'article de Nature, la revue Nature, publié dans Le Monde il y a un mois, démontre qu'il y a moins d'erreurs dans Wikipédia que dans Encyclopedia Britannica. Pourquoi? Parce qu'il y a un système mutuel de correction permanente. C'est exactement ce qui se passe avec Agoravox ou les journaux dits citoyens ou des podcasts. C'est que ceux qui se livrent à la capacité d'autocorrection en ligne font moins d'erreurs parfois. Bien sûr qu'il y en a. Alors, vous avez prononcé le mot de désinformation. Là, vous avez absolument raison. Les blogs...
Donc, je pourrais aussi dire risque d'inflation avec l'idée que trop d'infos peut aussi tuer l'info.
Absolument, une sorte d'infopollution. On va arriver peut-être à une saturation de l'expression par les blogs dont il faut être vigilant. Mais je pense que la bulle de désinformation peut s'accroître de manière étonnante et facile à catalyser sur ces médias avec les fils RSS. Vous savez, les fils RSS sont ces liens entre des blogs qui font que quand vous êtes abonné à un blog, dès que quelque chose a changé, vous en êtes informé. Donc c'est une espèce d'intelligence connective, je ne vais pas dire collective parce que j'aime pas trop le mot, mais disons une intelligence connective qui fait que dès qu'un blog change, vous le savez. Mais aussi, s'il y a une bulle d'information fausse, ou vraie d'ailleurs, j'en sais rien, elle peut être amplifiée de manière absolument considérable. Donc oui, infopollution, risque, désinformation, risque, fiabilité de l'information, risque.
Benoît Tabaka, est-ce qu'on peut dire que le web a permis l'émergence aussi de nouveaux modèles économiques? Et là encore, comme avec la radio, est-ce qu'on risque à long terme d'enterrer des pans entiers de la vieille économie?
Je pense qu'on n'enterrera pas des pans entiers de la vieille économie, de l'économie classique, mais c'est vrai qu'il y a certains acteurs qui sont aujourd'hui un petit peu chahutés, chamboulés dans leur activité classique.
Mais je pense à l'effondrement du marché du disque, par exemple, moins 40%, je crois, en 4 ans. C'est vraiment énorme. Il va y avoir...
C'est vrai que... Honnêtement, bon, le marché du disque, on en parle beaucoup encore récemment. Non, ça choque pas.
Je vais revenir au chiffre. 40% de moins en 4 ans.
Non, mais on a eu effectivement un impact assez fort de toute la nouvelle pratique du téléchargement, l'échange de fichiers, etc. Mais aussi, parallèlement à ça, on a vu émerger... Effectivement, on a une baisse de 40% du chiffre en matière de vente de disques. Mais ce qu'on ne voit pas derrière, c'est tous les autres phénomènes. C'est-à-dire, un, le succès d'iPod qui vend de la musique. Le succès, deux, de tout ce qui est vente de sonneries de téléphone portable qui marche également très très bien. Donc c'est vrai qu'en fait, aujourd'hui, on a plutôt un nouveau comportement de consommation. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on avait une certaine déférence vis-à-vis de certains objets. C'est-à-dire que le livre, la musique, on avait effectivement une vraie déférence. On lisait parce que c'était un bien noble. Aujourd'hui, on le considère comme un bien de consommation. C'est-à-dire qu'on a besoin de l'essayer avant de l'acheter. Et c'est vraiment ça que finalement a permis tous les aspects de téléchargement de musique. C'est ce que permet également la mise en ligne gratuite de livres sur Internet. On peut tester, on peut regarder avant d'aller acheter.
Alors est-ce que d'après vous, en ce moment, tous les acteurs traditionnels du commerce sont en train de s'adapter à ce nouvel outil?
Tous commencent véritablement à s'adapter. Un des exemples, par exemple, on peut citer le cas de Virgin, qui progressivement va faire disparaître, pas totalement, mais progressivement tout ce qui est CD et DVD de leur rayon. Pourquoi? Parce qu'ils vont plutôt se réorienter sur leur métier d'origine. Ils se présentent comme étant un libraire faisant du disque. Et effectivement, il va être de plus en plus libraire que faisant du disque.
Il y a aussi des secteurs, pardon, qui profitent énormément de cette capacité Internet. Je pense au tourisme, notamment.
Ça, c'est sans doute une des grandes explosions. C'est un des premiers secteurs avec le secteur de l'informatique. Le tourisme, ça marche très très bien parce que ça va permettre aux personnes de créer leur voyage sur mesure. Et en plus, on a un autre élément qui est l'attrait de l'Internet au travers de la notion du prix. Aujourd'hui, sur Internet, on pense pouvoir faire la meilleure affaire, trouver au prix le moins cher.
Mais c'est vrai,
le fameux voyage discount.
C'est vrai?
Ça dépend.
C'est
pas toujours moins cher. Quelquefois, ça peut même être plus cher. Tout simplement parce que sur Internet, vous allez retrouver les mêmes vendeurs classiques que ceux que vous trouvez dans la vie de tous les jours. Et effectivement, les prix seront peut-être plus importants parce que vous avez également d'autres éléments qui sont notamment le transport, les frais divers et variés qui peuvent s'accumuler à un prix que vous auriez eu à payer dans une boutique traditionnelle.
Mmh. Et la nuance avec Internet, c'est que maintenant, il faut savoir sortir sa carte de crédit. Et ça, il y en a encore quelques-uns qui sont assez réticents à ce mode de paiement.
On est encore réticents parce qu'il y a toujours ce fameux mythe de tout ce qui est problème de paiement sur Internet. C'est un mythe aujourd'hui.
Alors que c'est sécurisé, vous êtes en train de dire?
C'est sans doute l'un des espaces les plus sécurisés. D'accord. En termes de paiement sur Internet. Aujourd'hui, le paiement sur Internet est tellement sécurisé que le marchand en face n'a quasiment jamais votre numéro de carte bancaire. Seuls quelques grands marchands qui, parce qu'ils sont des plateformes techniques, conservent ce numéro-là. Sur Internet, quand vous payez, en fait, vous donnez votre numéro à la banque du marchand. À l'inverse d'un paiement dans un espace classique, dans un restaurant, dans une station-service, vous donnez votre numéro de carte bancaire à un être humain. Est-ce que vous savez ce que cet être humain va faire votre numéro de carte bancaire?
Non, aucune idée, mais je sais qu'on va écouter un peu de musique tout de suite. Sur France Inter. Je suis toujours en compagnie de Benoît Tabaka et de Joël de René qui est en studio à Bayonne avec nous. Je voulais savoir, messieurs, quel est un peu l'impact de tous ce média de masse qui est Internet? Quels sont les enjeux?
Les médias des masses par rapport aux masses médias sont des enjeux personnels, puisqu'on ramène les produits dont nous parlions à des produits personnalisés, que les gens peuvent créer des contenus et les comparer, qu'ils sont en contact avec d'autres personnes qui font des commentaires. Et donc on passe du un vers tous de la télévision au tous vers tous des blogs, des vlogs, du P2P, etc. Je vous donne un exemple, ce qui est absolument fascinant pour un auteur comme moi, scientifique, et pour la Cité des Sciences, c'est que nous avons des contacts qu'on n'aurait jamais eu avec nos lecteurs, nos visiteurs. Je fais des bouquins, des blogs sur les bouquins, j'ai des commentaires des gens, je fais des mini-films sur mon site deroné.com en flash, scientifique, des mini-podcasts, des conférences en ligne de la Cité des Sciences sont toutes sur le site de la Cité des Sciences, citéssciences.fr et sur deroné.com. Les gens répondent et on les retrouve dans les amphis, on peut discuter physiquement avec eux. Donc il y a un suivi, il y a un contact qui, grâce à Internet qu'on avait cru au départ comme une machine à isoler, électroniquement, à dématérialiser les relations, font que jamais un auteur, un scientifique ou un lieu physique comme la Cité des Sciences n'ont eu autant de relations, de suivi avec leurs lecteurs, leurs visiteurs et leurs fans. Et ça, c'est absolument extraordinaire et c'est grâce à ces
grands
réseaux.
Donc il n'y a plus d'infos à sens unique. En tout cas, le sens des échanges a été profondément modifié. Maintenant, on part du bas de la base vers le sommet et ça va plus simplement du sommet vers la base.
Exactement.
Est-ce que c'est la même chose, pardon, j'interromps Joël de René, Benoît Tabaka, pour le commerce ? Est-ce qu'on peut dire la même chose avec l'e-commerce ?
Oui, on peut dire la même chose. Aujourd'hui, il y a un ouvrage qui parle récemment qui s'appelle le nouveau pouvoir des internautes et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que vous avez déjà, par exemple, des cybermarchands assez atypiques qui finalement produisent ce que leurs consommateurs leur demandent. Vous avez un éditeur, par exemple, de t-shirts personnalisés, il va demander aux internautes de leur proposer des modèles, de leur proposer des dessins. Et après, les internautes sont appelés à voter. Et celui qui a le plus grand nombre de votes, déjà le réalisateur du dessin est dédommagé. Et deux, le t-shirt est édité et mis en vente.
Donc c'est l'offre qui s'adapte à la demande. Oui, Joël Dornet.
Oui, si je peux intervenir là-dessus, on demande souvent, on nous pose la question, mais quel est le nouveau modèle économique, puisque les choses sont en partie gratuites, comment ça marche? Alors, la question est la suivante. Il faut faire venir beaucoup de monde, du flux énorme, sur des sites fun, parfois gratuit.
Alors là, j'ai pas compris.
Fun, ça veut dire des sites amusants où il y a des tas de choses à voir, beaucoup de variétés, comme par exemple Google Earth qui vous propose de venir voir votre maison du haut du satellite. Ça sert à rien, mais tout le monde y va. Une fois que les gens sont là, on a une sorte de public captif à qui, comme le dit Benoît, on peut vendre d'une manière très personnalisée des produits à bas prix, comme iTunes. Comme quoi, il vaut mieux vendre 10 centimes d'euros à 10 millions de personnes avec 90% de marge, ce qui fait 900 000 euros, que de vendre, par exemple, un CD à 10 euros ou plus à 10 000 personnes avec 30% de marge, ce qui fait que 30 000 euros. Donc, les gens étant contents parce que c'est personnalisé, font votre marketing, ils font ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, le buzz, et vous, vous faites du business, d'où mon équation. Flux plus buzz égale bise.
Ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est que vous parlez du déclasse et en même temps vous expliquez que pour que tout ça fonctionne, les conditions, eh bien, c'est que ce nouvel univers du tout gratuit génère quand même des bénéfices indirects. On est dans une logique purement libérale.
Attendez, je ne parle pas de lutte des classes. Si j'ai employé le terme de prolétaire, c'est pour montrer qu'il y a un nouveau pouvoir.
Enfin, sur votre site, il y a quand même marqué prolétaire de tous les pays, levez-vous.
Bien sûr, prolétaire de tous les pays, unissez-vous, bien entendu. J'ai dit aux gens, unissez-vous pour avoir ce nouveau pouvoir face à ce que j'appelle d'une manière tout à fait irrévérencieuse et pas du tout péjorative les infocapitalistes, c'est-à-dire ceux qui détiennent les contenus propriétaires, les grilles de programmes qui nous forcent à venir à telle heure voir telle chose. Eh bien, je dis, unissez-vous pour montrer que votre nouveau pouvoir de création de contenu numérique est un réel pouvoir et peut-être, je dis peut-être, l'amorce d'une nouvelle forme de démocratie participative grâce au réseau, mais je ne parle pas de lutte des classes, je trouve au contraire, après mon expérience de même pas 6 mois, 1 an, 2 ans de ce journal et d'autres, que les grands médias commence à comprendre, enfin les plus intelligents et les plus ouverts, la complémentarité qui existe entre les prolétaires et les infocapitalistes.
Il y a même parfois récupération de cet outil de libération par les sphères plus institutionnelles. Ah, c'est ce qu'on voit avec les blocs politiques en ce moment, la bataille qui est livrée en ce moment par les politiques sur Internet.
Et d'ailleurs, certains d'entre nous ont trouvé notre nom pris par des politiques, parce que nos noms sont souvent cités sur Internet. Quand on clique sur nos noms, on se retrouve sur un parti politique qui a acheté notre nom pour se faire de la pub.
Oui, c'est ça, on achète les mots-clés. Alors, par exemple, aujourd'hui, quand je clique Jospin, je tape Jospin sur un moteur de recherche comme Google, je peux arriver sur Nicolas Sarkozy.
Voilà, par contre, si vous tapez mon nom, vous tomberez sur mon site de René.com, sur la Cité des Sciences, sur pronétariat.com.
Ça, on l'aura bien compris.
Sur Agoravox. Non, mais c'est vrai, parce que
5 fois que vous le dites.
Non, mais je vous le dis parce qu'il y a tellement de gens qui nous le demandent, parce qu'ils veulent participer. Non, ça, c'est un point important, Olivier aussi, c'est que c'est la participation. Les gens ne veulent pas seulement recevoir, ils veulent aussi être des émetteurs d'informations. Et je pense qu'on n'a pas assez écouté les gens, les consommateurs, les étudiants. Ils ont des choses à dire, ils sont nés avec cette génération. Cette génération est née avec ces outils dont nous parlons. Et comment se fait-il, par exemple, que dans les universités, il n'y a pas beaucoup, ou pas du tout, de journaux citoyens faits par les étudiants, de wikis, d'encyclopédies faites par les étudiants.
Ça arrive, ça va venir,
oui,
ça va venir.
J'espère, mais c'est mieux d'aller dans la rue avec la télé par-dessus.
Joël de René, on a Laurence Garcia qui nous a rejoint dans ce studio. Utopie Cabrac, c'est tous les soirs à 20h, et ça commence comme ça. Je reçois.